C'est bon. Voilà, on se lance aujourd'hui dans les cinq piliers de la réforme, qui sont toujours des piliers des églises protestantes aujourd'hui. Et en fait, il y en a cinq, on va voir tour de rôle. Souvent, on les indique avec ces mots en latin, sola scriptura, etc. C'est l'écriture seule, la foi seule, par la grâce seule, Christ seul, et à Dieu seul soit la gloire. Donc on va les examiner les uns après les autres. Et ce que l'on va faire probablement à peu près chaque fois, c'est de situer les choses brièvement dans l'histoire, mais après, on va voir un petit peu quelle est la base biblique de ces cinq sola. Et ensuite, ce qui est important, de voir la pertinence pour nous. Parce que nous, on vit aujourd'hui, hein, pas en 1517. Même si c'est important, on est en 2017, donc il faut voir la pertinence de ces doctrines pour nous. Donc d'abord, un petit mot sur l'histoire de la réforme, parce qu'on se lance. Martin Luther, moine augustinien, il avait fait de brillantes études, il devait être travaillé dans le droit, avocat, je ne sais pas. Et un jour, il a traversé un champ lors d'un grand orage, il avait tellement peur qu'il a dit « si ». Je m'en sors, je deviens moine. Donc, il est devenu moine, augustinien, mais c'est quelqu'un qui avait toujours une très grande conscience de son propre péché. Et malgré tout ce qu'il a fait dans le monastère, il observait rigoureusement toutes les règles de l'ordre, etc. Il n'était pas, toujours pas vraiment à l'aise devant Dieu. Et il se croyait toujours coupable aux yeux de Dieu. Et le supérieur du monastère l'a un petit peu sorti de ce monastère, l'a envoyé à l'université de Wittenberg pour enseigner le Nouveau Testament, et en particulier l'épître aux Romains. Et c'est en lisant cet épître aux Romains qu'il a compris qu'en fait, si on peut être à l'aise devant Dieu, si on est en règle devant Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, ce que nous ne sommes pas, mais parce que Jésus est mort à la croix et a payé à notre place, et c'est lui qui a porté notre culpabilité sur lui-même. Nous sommes donc, selon l'expression de cet épître aux Romains, déclarés justes, donc justifiés, parce que nous croyons en Jésus et c'est la grâce. J'anticipe, mais la grâce, ça veut dire que c'est gratuit. Il n'y a rien à payer parce que le prix a été payé par Jésus et non pas par nous. Ça, c'est le fondement de l'évangile, de la bonne nouvelle dans l'évangile, dans la Bible. Et c'est ce que Luther a compris alors qu'il enseignait lui-même cette lettre, cet épître de Paul aux Romains. Mais il y a quelque chose qui a précipité une crise. Un autre moine dominicain, Tetzel, a été envoyé en Allemagne pour vendre les indulgences. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire que les indulgences. Parce que dans la Bible, on parle du ciel et de l'enfer, du salut et la perdition. Mais dans l'enseignement de l'Église catholique à l'époque, bon, certains y croient toujours, mais pas tous, il y a quelque chose qui s'appelle le purgatoire. Donc, à la fin de sa vie, on n'était pas aussi mauvais pour aller en enfer, mais on n'était pas si bon pour aller au ciel. Donc, on allait au purgatoire. Pourquoi purgatoire? C'est pour purger soi-même sa peine. Et à partir de là, il y a toute une mythologie qui s'est développée, des idées un peu étranges, du nombre d'années, etc. Et parfois, il disait, voilà, si vous faites telle ou telle chose, vous avez une remise de peine de 5 ans au purgatoire. Et ce moine Tetzel, il a vraiment exagéré, parce qu'il vendait contre pour l'argent. Ils vendaient ces indulgences et ils mettaient beaucoup de pression pour que les gens les achètent en disant, voilà, vous voulez que votre grand-mère continue à souffrir au purgatoire, alors que vous pouvez donner et que son âme sera libérée du coup. Et il avait quelque chose qui disait, je ne sais pas si vous comprenez l'allemand, mais je vous l'ai dit en allemand quand même, Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ça veut dire, lorsque l'argent résonne dans le coffre, l'âme bondit du purgatoire. C'était sa phrase. Bon. Luther n'était pas d'accord. Il dit, c'est pas ça l'évangile. Il faut dire, entre parenthèses, tout est politique quelque part. En fait, cet argent-là devait servir pour la construction de la basilique et de Saint-Pierre à Rome. Hein. Donc, ça servait à ça. Parce que le pape voulait cela. Donc, le 31 octobre 1517, Luther affiche au placard de ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg où il enseignait pour dire « je suis pas d'accord ». Et c'était juste au moment, depuis quelques années, on avait inventé l'imprimerie, donc ces idées se sont répandues très très rapidement partout en Allemagne. Et les gens disaient, oui, c'est vrai, cette histoire-là d'argent, c'est pas ça. Donc, Luther était convié à ce qu'on appelle la diète de Worms. Donc, la diète, c'était la réunion de tous les princes allemands qui formaient le Saint-Empire germanique. Ça, c'est la diète, dans une ville qui s'appelle Worms, il s'y rend pourvu d'un sauf-conduit, hein, parce qu'il craignait pour sa vie, et il était sommé de rétracter ce qu'il avait écrit. Donc, il paraît devant ce tribunal, en quelque sorte, il avait un peu peur, hein, parce qu'un seul homme contre l'Empire et l'Église, c'était beaucoup. Donc il a demandé une nuit de réflexion encore. Et le lendemain, il est revenu. Et voici ce qu'il a dit. Et on le voit comme étant fondamental pour nous en tant que protestants. Puisque votre majesté impériale et vos seigneuries me demandent une réponse nette, je vais vous le donner sans corne ni dent. C'est une expression allemande de l'époque, pour dire directement. Non. Donc, non, je ne rétracte pas. Non, à moins que, donc, si l'on ne me convainc pas par les témoignages de l'Écriture et par des raisons décisives, car je ne crois ni au pape, ni au concile seul. Puisqu'il est clair comme le jour qu'ils ont souvent erré et qu'ils se sont contredits. Je suis dominé par les saintes écritures que j'ai citées et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience. Bon, il faut dire que, il a eu beaucoup de discussions avec les théologiens. Il a bien montré que certains conciles de l'Église, certaines déclarations du pape allaient justement dans son sens. Et tout ce qu'il voulait, on parle de réforme, il voulait réformer l'Église. Il ne voulait pas casser, il voulait réformer. Mais le pape à l'époque était assez têtu et n'ont pas voulu changer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il a dit que les conciles se contredisent, parce qu'il y avait d'autres conciles que le pape a cités. Mais finalement, l'expression importante, c'est je suis dominé par les saintes écritures. Et donc, ça, c'est la parole de Dieu, la Bible. Aujourd'hui, on dirait plutôt la Bible que les saintes écritures. Alors, quelle est la base de cette conviction? Quelques versets que je peux citer dans Ésaïe. Chapitre 8, on va commencer avec l'Ancien Testament, où Ésaïe dit, est-ce qu'il faut consulter les morts, etc. Non, Il faut revenir à la loi et au témoignage. Donc la loi de Dieu, le témoignage, c'était en fait l'alliance. C'était une référence aux 10 commandements et à toute l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple, de cette ancienne alliance, le peuple d'Israël. Donc à la loi et au témoignage. C'est ça qui est important. Dans le Nouveau Testament, quelques versets un petit peu en vrac, 1 Thessaloniciens 2, et le verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. Donc l'apôtre Paul dit, voilà, ce n'est pas les paroles des hommes. Moi, je ne suis pas à vous donner mon avis sur les choses. Moi, Paul, je ne viens pas à Thessalonique pour dire, moi, je pense que... Non, je viens vous annoncer la parole de Dieu. Cette parole qui agit en ceux qui croient. Et justement, en revenant à la vie de Jésus, dans Matthieu 4, c'est le récit de ses tentations dans le désert. Et comment a-t-il résisté à ces tentations? En disant chaque fois, il est écrit. Non, je résiste à ces tentations du diable parce qu'il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Et par ailleurs, une petite phrase de Jésus dans Jean chapitre 17 et le verset 17, où il dit, ta parole est la vérité. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, voilà quelques versets. Maintenant, on va regarder un verset qui se trouve dans, ou deux versets plutôt, qui se trouve dans 1 Timothée. On va passer un petit peu plus de temps. 1 Timothée, chapitre 3. Et les versets 16 et 17. C'est pas... Excusez-moi, c'est 2 Timothée. De Timothée. 3, 16 à 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. La nécessité de la révélation. C'est toute l'écriture. J'ai mis le psaume 19, mais on ne va pas le trouver parce que David l'a cité tout à l'heure. Donc, en disant que Dieu se révèle dans la nature, dans la création. Et Paul dit la même chose dans Romains 1, le verset 18, quand il dit que verset 19, ce que l'on peut connaître de Dieu est évident puisque Dieu le leur a fait connaître. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Il ajoute, les gens sont inexcusables parce que même en regardant la nature et la création, ils ne croient pas. Ils préfèrent adorer la créature que le créateur. On peut poser la question autrement. Quelqu'un ici, un Parisien, aujourd'hui, c'est peut-être pas si beau que ça, mais il décide, je vais me promener. Donc il part dans la forêt, quelque part, à Écouen, ou enfin, un petit peu là. Voilà. Il regarde la nature, il dit, voilà, ça ne vient pas de nulle part. Il y a un créateur. C'est tellement beau. C'est tellement utile pour nous, c'est tellement fin dans tout le mécanisme de la vie. C'est pas le hasard qui a créé ça. Donc il regarde cela, et qu'est-ce qu'il peut comprendre de Dieu? Romain l'a dit, la puissance de Dieu, par son existence, sa puissance, sa divinité. Donc il peut savoir que Dieu existe, et que Dieu est puissant pour faire cela. À part cela, ça s'arrête là. On a besoin d'une autre révélation pour aller au-delà de ce qu'on appelle notre horizon cognitif. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître si Dieu ne les révèle pas. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que c'est le souffle de Dieu, littéralement, et ce souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Disons par exemple dans 2 Pierre chapitre 1, les versets 20 et 21. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce sont les hommes qui ont parlé, dans leur contexte. Et c'est le Saint-Esprit qui a veillé sur ces paroles pour que ces paroles soient justes et inspirées. Ça ne veut pas dire, par exemple, je ne sais pas, pensons au prophète Jérémie. Nous avons 52 chapitres dans sa prophétie. Donc on peut dire toute cette prophétie est inspirée de Dieu. Mais peut-être Jérémie, lors de propos de table, a dit des choses qui n'étaient pas justes. Mais ça ne fait pas partie de l'Écriture. Mais quand Jérémie a parlé, poussé par le Saint-Esprit, c'est quand même Jérémie qui a parlé. Et quand on connaît bien la parole de Dieu, on peut regarder un texte, et si on connaît bien, on va dire, voilà, ça c'est vraiment Matthieu qui a parlé, ça c'est vraiment Jean qui a parlé, ça c'est Ésaïe, ça c'est Jérémie. Chacun parle avec son style, ce qu'il est. Et donc on peut même analyser les écrits avec les mêmes règles d'interprétation littéraire que n'importe quel autre livre, parce que c'est le même langage que nous avons avec lequel ces personnes ont parlé. Sauf que Dieu a veillé à ce que ce qui est inscrit et gardé dans le canon biblique, ça veut dire donc le choix des livres bibliques, soit exact et vrai. Donc, ça, c'est la question de l'interprétation. Et après, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Et j'ai cité Deutéronome 29 et le verset 28. Dans certaines Bibles, la numérotation est un petit peu différente, et c'est le verset 29, mais c'est simplement question de numérotation des versets. Deutéronome 29 et le verset 28. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, deux choses que l'on tire de ce verset, deux choses importantes. Il y a des choses cachées. Dieu ne nous a pas tout dit dans les Écritures. Il y a parfois des questions qu'on se pose et on ne trouve pas la réponse dans la Bible. Tu as décidé, pour une raison que lui seul connaît, de ne pas tout dire. Mais il y en a assez pour que l'on puisse le connaître, savoir qui il est, et arriver à notre salut en Jésus. Et la deuxième chose que l'on voit dans ce texte, c'est que ce qu'il a révélé, c'est que pour les mettre en pratique, c'est pas simplement pour dire, oh, c'est intéressant, j'ai fait des découvertes, oui, mais tout est pour qu'on le mette en pratique dans notre vie, qu'on y croit et qu'on vive en cohérence avec ce que Dieu a révélé. Une autre façon de dire, je le mets en pratique. Parce qu'en fait, il y a aussi des versets qui ne sont pas des ordres. Mais quand on sait qui est Dieu, on va vivre en cohérence avec la totalité de sa révélation. Donc, on a vu un peu le côté historique. La redécouverte de la Bible, qui, bizarrement, c'était l'ère du temps, hein. Dieu a permis ça, c'était comme la redécouverte des autres écrits de l'Antiquité, ce qu'on appelle la Renaissance, hein. Donc c'était un peu la même époque. Mais c'était la redécouverte de la parole de Dieu, qui est le seul guide pour connaître la vérité. Et maintenant, je voudrais que cette troisième partie de cette intervention, que l'on parle de la pertinence de cette doctrine. D'abord, une petite réflexion par rapport à cette pertinence avant de voir les deux choses concrètes sur lesquelles je voudrais développer un petit peu ma pensée. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'on peut connaître? Et depuis l'Antiquité, tous les philosophes ont développé des théories de la connaissance. C'est encore un grand débat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut connaître? On arrive jusqu'à la phénoménologie, où ils disent, mais on ne peut pas tout connaître, mais on peut au moins connaître quelques phénomènes, et voilà, on vit avec cela. Donc, Husserl, le grand philosophe de la phénoménologie, avait l'habitude de sortir une boîte d'allumettes de sa poche, il le montrait en fait dans ses cours pour dire, mais combien de côtés vous voyez? Et on ne voit jamais plus que 3 sur les 6. Donc il dit, voilà. On ne peut pas tout connaître. Il y a des choses qu'on peut connaître, mais il faut être humble, on ne peut pas connaître tout le reste. Mais revenons au 19e siècle, c'est Emmanuel Kant, hein, le philosophe allemand, qui a publié un grand livre, Critique de la raison pure, en disant que la raison pure ne nous permet pas vraiment de tout connaître. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce que l'on sait arrive à nous par les 5 sens. Est-ce qu'on peut vraiment faire totalement confiance à ces 5 sens? Il y a des limites. Donc on ne connaît que les phénomènes et jamais les choses en soi. Exemple très concret, parfois sujet de discussion philosophique. Un arbre tombe dans la forêt où il n'y a absolument personne. Est-ce que cet arbre a fait un bruit en tombant? Voilà, on peut débattre autour de la table tout à l'heure si on veut. Enfin, la réponse un peu, c'est non. L'arbre a provoqué des ondes, mais puisqu'il n'y avait pas d'être humain pour entendre ces ondes, il n'y avait pas de bruit en tant que tel. Encore que... Bon. Non, mais c'est simplement pour dire que les questions sur la théorie des connaissances, c'est vraiment extrêmement intéressant. Mais finalement, il faut toujours se dire que on arrive toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, à notre horizon cognitif, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Qui est Dieu? On peut connaître qu'il existe et qu'il est puissant, mais on peut rien savoir d'autre. Il a fallu qu'il se révèle. Ce qu'il a fait, David l'a lu dans Hébreux 1, d'abord par les prophètes, et dans ces derniers temps par son fils. Donc Dieu se révèle. Alors, les conséquences de cette pertinence, il y en a deux que je veux développer ce matin. On peut lutter contre la tyrannie ou l'autoritarisme de certains dirigeants. L'autorité finale n'est pas une personne, mais la parole de Dieu. C'était le cas pour Luther au XVIe siècle, où justement le pape n'était pas quelque part fidèle même à ses propres conciles. Il n'a pas accepté d'arrêter cet abus de la vente des indulgences. Ça peut être le cas aujourd'hui. Il y a, faut le dire, même dans le monde protestant, certaines personnes qui se prennent pour des gourous. Et donc, attention. Et ça a toujours été le cas depuis le début de l'Église. Notre liberté de conscience est entière, est fondée sur la Bible. Donc, dans 2 Pierre 2, donc c'est Pierre qui en parle. Tout ce que j'ai décrit au XVIe siècle aujourd'hui existe depuis le début de l'Église. L'apôtre Pierre écrit, « Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, donc ça c'est l'Ancien Testament, de même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants, ou de faux docteurs. » On parle de faux prophètes et de faux docteurs, selon la traduction de la Bible. « Et ces prétendus enseignants introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. » Alors, quelle est la seule protection que nous avons? C'est de suivre l'exemple d'un groupe de personnes dans la ville de Béret, où Paul est passé, dans Actes 17 et les versets 10 à 12. Aussitôt, je lis le texte, « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Dès leur arrivée, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques, ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Et dans le monde protestant, un pasteur n'est pas au-dessus de toute critique. Et si le dimanche matin, je vous enseigne quelque chose, et vous dites, ça c'est pas biblique, c'est votre devoir de venir me le dire. Et de dire, je suis pas d'accord. Regardons ensemble ce qui est dit dans la parole. Parce que tout le monde, on est soumis à la parole. Et donc, cette doctrine nous libère, en quelque sorte, de l'autoritarisme, de la tyrannie de gourous, etc., qui voudraient et qui cherchent, dès le début de l'Église, à mener les gens par le bout du nez, parce que ça semble bien. Ils ont peut-être la Bible sous le bras, et ils ont un certain charisme, ils ont... oui, ils convainquent les gens, mais ce qu'ils disent n'est pas forcément biblique. Je pense par exemple à cette doctrine qui a fait beaucoup de ravages, par exemple en Afrique, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Et c'est absolument pas biblique. Donc il faut veiller à tout cela. Donc voilà, cela nous libère. Rappelez cette citation que j'ai mise de Luther au début. Hein, donc ma conscience, il a parlé de sa conscience personnelle. Deuxième chose, deuxième libération, on peut lutter contre ce que j'ai appelé la tyrannie des émotions. Ça veut dire que, je reviens à cette théorie de connaissance, comment peut-on connaître? Et dans le monde, avec la philosophie postmoderne d'aujourd'hui, où il y a pas une idéologie qui est acceptée, il n'y a pas d'explication de la vie. Alors pourquoi et comment les gens font des choix? Ce sont des choix validés par le ressenti, par les émotions. Je sais que c'est vrai parce que je le sens. Mais en tant que tel, ça n'apporte pas de conviction. Je pense, quelqu'un m'a dit l'autre jour, je cherche du concret pour appuyer ma foi. En parlant des émotions. Mais en fait, ressentir quelque chose ne prouve rien. On peut ressentir de fortes émotions en regardant un film, ou un concert, ou pendant un match d'hier soir. La France, finalement, s'est qualifiée. Enfin, pas a gagné, au moins. À la fin, on a des émotions. Ça ne prouve rien du tout. Sauf que Dieu nous a créés avec des émotions, et c'est bien, parce que ça fait partie de ce qu'on est. Mais ce n'est pas par les émotions qu'on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai parce que c'est écrit. Et là, je vais ajouter Genèse 1, 27, c'est-à-dire que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu, ce Dieu trinitaire, communique au sein de lui-même depuis toute éternité. C'est lui qui nous a créés capables de parler. Et j'ai souvent parlé de ça, c'est le langage est extraordinaire. J'aime bien citer un texte que j'ai trouvé sur le site de l'Université de Toulouse, une fois. Que le langage est un instinct humain, biologiquement programmé au même titre que la marche sur deux jambes. Ils disent même que... alors pourquoi ils avancent là? Ils disent que l'être humain, bon, tous les animaux font un certain apprentissage de la vie, mais les humains apprennent à parler, et le mieux qu'on a réussi à faire avec les chimpanzés, c'est d'arriver avec la langue, le langage des signes vers un enfant de 18 mois, 2 ans. Et c'est justement à 2 ans que le langage explose. Hein. Je vois un petit enfant à ce moment-là, d'un seul coup, on arrive à exprimer énormément de choses. Et en plus, l'acquisition du langage, selon ce titre, n'est pas le fruit d'un long et laborieux enseignement, comme les maths, comme la musique. Tout le monde parle. Même des personnes relativement handicapées parlent sans erreur grammaticale. Ce que les ordinateurs les plus perfectionnés n'arrivent pas à en faire. Ma preuve, faites une traduction avec Google. Comme j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, le pire que j'ai trouvé sur Google, c'était l'expression « louer Dieu », qu'ils ont traduit « rent God ». Alors, « rent », c'est la location. Bon. « Rent », donc ça veut dire faire la location, à louer un appartement. Bon. Alors, donc, pour le chrétien, on va dire, tu concret, Dieu nous a créés capable de penser avec le langage. Donc lui, le Dieu de toute éternité, utilise ce même langage pour nous parler. C'est extraordinaire. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Beaucoup plus que les émotions, qui sont les conséquences. Après, bien sûr, on va pouvoir adorer Dieu, on va pouvoir nous émerveiller, et c'est très bien. Mais la base, c'est justement la révélation, donc, sola scriptura, par l'écriture seule. Et ça doit rester vraiment la base de notre communauté, la base de la foi, la base de notre vie individuelle. Donc, pour terminer, je recite 2 Timothée 3. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen.